Bonjour, les lundis de l'histoire par Jacques Le Goff. Nous allons aujourd'hui parler d'une bataille. Ceci étonnera sans doute quelques auditeurs qui n'ont pas l'habitude que cette émission soit consacré à un événement. Mais non seulement cet événement a un contenu historique de longue durée très important, mais il est traité par l'historien qui a écrit le livre dont nous allons débattre cet après-midi d'une façon que je dirais exemplaire. En ce qui concerne la méthode historique, je voudrais d'abord placer, et je pense que l'auteur Xavier Hélary sera d'accord avec moi, cette émission et ce livre sous l'évocation d'un des plus beaux livres d'un des grands médiévistes français du XXe siècle, Georges Duby, qui a écrit un livre. On peut dire qu'il est un chef-d'œuvre sur le dimanche de Bouvines, ouvrage paru en 1973. La bataille dont nous allons parler aujourd'hui, c'est la bataille de Courtrai. Et le titre du livre, c'est Courtrai, 11 juillet 1302, écrit par Xavier Hélary, maître de conférence à l'université de Paris-Sorbonne, Paris 4, publié aux éditions Talendier, et notre invité est le grand médiéviste Philippe Contamine, professeur émérite à cette même université de Paris-Sorbonne, Paris 4. Nous allons d'abord écouter le récit que Xavier Hélary place d'ailleurs en tête de son livre et qui est une sorte de résumé de l'événement d'un des chroniqueurs importants de la période, Gilles Le Muisy, abbé de Saint-Martin de Tournai, auquel un autre grand historien récemment disparu, grand médiéviste, avait consacré une belle étude, Bernard Guenet. Écoutons donc Gilles Le Muisy.
Le 11 juillet, le jour de la Saint-Benoît, le comte d'Artois fit crier que toute l'armée se rassemble dans la plaine devant le monastère de Groningue. C'est là que les escadrons furent mis en ordre de bataille. Les Flamands, quant à eux, sortirent de Courtrai où ils se trouvaient. Adossés à la ville, ils formèrent comme un mur, le visage tendu contre leurs ennemis. Ils étaient tous à pied, il n'y avait nul cavalier parmi eux et ils étaient beaucoup moins nombreux que leurs adversaires. Alors, le comte d'Artois ordonna à ses troupes d'approcher. Ainsi fut fait. Les deux armées commencèrent à se battre. Les gens de pied du comte d'Artois, ayant pris le dessus sur les Flamands, étaient sur le point d'emporter la victoire. Mais, à cette nouvelle, le comte d'Artois, parce qu'il ne voulait pas que l'honneur de la victoire revienne aux fantassins, se mit à s'agiter. Il lança en avant les escadrons de cavalerie qui, sur leur chemin, brisèrent les rangs de leurs propres fantassins. Mais les cavaliers se dirigeaient sans le savoir vers des fossés qui se trouvaient là. Les Flamands commençaient déjà à paniquer, mais je ne sais par quel jugement caché de Dieu, les nobles cavaliers français se mirent à se défier mutuellement et les premiers tombèrent les uns sur les autres dans les fossés et ainsi de suite. En voyant cela, les Flamands reprirent courage et résistèrent avec beaucoup de bravoure. C'est ainsi que, par l'orgueil du comte, ces hommes et ceux des autres nobles se tuèrent les uns les autres en chutant de leurs chevaux. Peu d'entre eux, en fait, furent tués par les Flamands. Voyant que le combat tournait mal et que l'heure leur était défavorable, le reste de l'armée du comte d'Artois, tant cavalier que fantassin, prit la fuite.
Xavier Larry, je vais maintenant vous poser la question un peu banale, mais qui vous présente en quelque sorte à nos auditeurs. Pourquoi avez-vous écrit ce livre ?
Alors, si j'ai écrit ce livre, j'y vois maintenant trois raisons. C'est d'une part que j'en ai reçu la proposition et presque la commande de la part des éditions Talendier qui lançaient cette collection Bataille. Alors, je crois qu'au départ, ils auraient préféré une bataille plus connue du public français, comme Azincourt, par exemple. Mais ils ont accepté bien volontiers de publier ce livre sur la bataille de Courtrai qui m'était plus cher. Elle m'était plus chère parce que dans ma thèse sur les armées des rois de France, depuis Saint-Louis jusqu'à Philippe le Bel, faite sous l'inspiration de Philippe Contamine, j'avais rencontré beaucoup cette bataille de Courtrai, mais je ne l'avais pas traitée en tant que telle. C'est un événement très important du point de vue militaire, du point de vue politique, on y reviendra certainement, mais je n'avais pas vu la bataille en tant que telle. Et puis, si je peux rappeler un souvenir d'enfance ou d'adolescence, je m'étais beaucoup, quelque chose m'avait beaucoup intrigué, c'était que les chevaliers français, dans les grandes batailles de la guerre de Cent Ans, comme Crécy ou Azincourt, commençaient par charger leur propre infanterie. Et ce souvenir-là, finalement, quand j'ai fait mes recherches sur les armées des rois de France, je l'ai retrouvé à propos de la bataille de Courtrai. Et ce qui m'a mis sur la voie d'une bonne compréhension des sources, des chroniques, c'est le bel article de Françoise Autran sur la déconfiture, sur la bataille de Poitiers, publié en 1991, où Françoise Autran montrait très bien que les chroniqueurs du Moyen-Âge faisaient moins finalement le récit d'une défaite en particulier qu'un récit de défaite, hein, toujours un petit peu le même avec des lieux communs, des stéréotypes. Et c'est dans cette inspiration-là, dans cette lignée-là, que je me suis inscrit pour essayer de comprendre comment les sources avaient parlé de cette bataille de Courtrai.
En effet, c'est le récit d'un événement comme thème récurrent et important des chroniqueurs du Moyen-Âge. Philippe Contamine, vous êtes entre autres le grand historien de la guerre et des armées au Moyen-Âge. Que pensez-vous du livre de Xavier Larry ?
Je pense que c'est un livre parfaitement équilibré, dans la mesure où, évidemment, il y avait le grand modèle de Georges Duby. Xavier Larry n'a pas voulu reprendre ce modèle inaccessible, ne serait-ce que par l'écriture. Et il me semble qu'il a, de façon très pertinente, mêlé les différents plans. Autrement dit, la bataille dans ses perspectives, parce que la situation est des plus complexes, c'est un écheveau qu'il faut démêler avec toutes sortes d'éléments. Et puis ensuite, il y a chez Xavier Larry la volonté de suivre la chronologie pas à pas. Et je pense que c'est excellent, ne serait-ce que pour le retentissement même de la bataille, de la déconfiture de Courtrai et de sa portée. Et puis ensuite, il y a, disons, l'examen naturel, obligé, des forces en présence. Et il s'est régulièrement interrogé sur la signification des sources, assez nombreuses, à la fois divergentes et convergentes, et enfin, sur à la fois le souvenir de la bataille, la mémoire de la bataille, disons à la fin du Moyen-Âge, et puis la reprise de cette bataille dans un autre contexte politique très très différent, au XIXe et surtout au XXe siècle. Donc cet équilibre me paraît être un des éléments fondamentaux de ce beau livre.
Xavier Larry, au début de l'ouvrage, indique bien quels sont les thèmes les plus intéressants que fait surgir l'étude de cette bataille. Je lis son propre texte. Il s'agit du premier désastre de la chevalerie. Il s'agit d'un échec majeur de la politique de Philippe le Bel. Et ensuite, du ferment d'une prise de conscience nationale. Voilà une façon, je crois, déjà très remarquable de montrer quelle est l'importance de cette bataille et de la façon dont, en grand historien, Xavier Hélary a écrit ce livre. Alors, bien entendu, une bataille, c'est d'abord un lieu. Et l'histoire, s'inscrivant toujours dans l'espace, c'est cet espace économique, politique, mental, qui doit d'abord éclairer la réflexion sur la bataille elle-même. C'est-à-dire qu'il s'agit de dire ce qu'est au début du XIVe siècle le comté de Flandre et les Flamands. Xavier Hélary.
Alors, le comté de Flandre est un fief du royaume de France, un des grands fiefs, donc comparable en ce sens au duché de Bourgogne ou à la Bretagne. Il présente néanmoins au moins deux particularités. La première, c'est qu'il est à cheval sur la France, sur le royaume de France et sur l'Empire. L'essentiel, malgré tout, dans le royaume de France. Mais il y en a une petite partie qui dépend de l'Empire, à l'est de l'Escaut. Donc, situation politique un petit peu plus complexe que celle des autres grands fiefs. Et le deuxième point particulier, c'est que, contrairement au reste du royaume de France, le comté de Flandre est une puissance économique, et une puissance économique urbaine, avec donc, qui se caractérise par la présence, l'existence de plusieurs grandes villes, dont les deux principales sont Gand et Bruges, qui rivalisent presque, bon, un petit peu de loin, mais qui rivalisent presque avec la puissante capitale du roi de France, qui est Paris. Et dans ces villes que sont Bruges, que sont Gand, il y a donc plusieurs dizaines de milliers d'habitants, il y a des autorités municipales, donc une organisation politique, et par conséquent, le comte de Flandre n'est pas dans la même situation que peuvent l'être les autres princes, c'est-à-dire qu'il est davantage en confrontation avec les grandes villes, et les rapports qu'il entretient avec elles sont extrêmement compliqués. À la fois, il en a besoin, et en même temps, elles lui font payer ce besoin. Par conséquent, situation très compliquée et un petit peu à part de ce comté de Flandre.
On peut s'étonner, vous le signalez d'ailleurs, d'un certain effacement de la noblesse flamande.
Oui, alors c'est vrai que la noblesse flamande s'est un petit peu écartée des villes, les villes dans lesquelles elle est finalement presque remplacée, supplantée par le patriciat. Mais le patriciat est un concept qu'il est un petit peu difficile de manier, puisque les patriciens ont finalement un mode de vie assez proche de celui des nobles, et donc on a parfois un peu de mal à s'y repérer.
Enfin, pour terminer cette brève présentation de la Flandre et des Flamands, un mot sur le comte de Flandre, qui est à ce moment-là Guy de Dampierre.
Alors Guy de Dampierre est le fils de la comtesse de Flandre, Marguerite de Constantinople, mais son père est un seigneur français, champenois, français au sens de francophone en tout cas. Hein. Et Guy de Dampierre, comme tous les membres de sa très nombreuse famille, puisqu'il a au moins 14 enfants de ses deux mariages, Guy de Dampierre est vraiment un prince français, et non pas un prince flamand, c'est-à-dire qu'on peut penser qu'il ne parlait pas lui-même le flamand et qu'il était parfaitement à son aise, parfaitement chez lui, à la cour des grands rois capétiens que sont Saint-Louis, Philippe III, Philippe le Bel, lui-même étant très âgé à l'époque, hein, puisqu'il est né dans les années 1220, donc il a très bien connu Saint-Louis, il a très bien connu Philippe III, et il connaît très bien aussi Philippe le Bel.
Philippe Contamine, avez-vous quelque chose à ajouter sur...
Je pense que, si vous voulez, il faut d'abord se représenter que le comté de Flandre, dans sa très grande majorité, est dans le royaume de France. Donc, incontestablement, le comte de Flandre, quel qu'il soit, est un vassal du roi de France, et même, depuis la fin du XIIe siècle, il est reconnu comme pair de France. Ce qui n'est pas insignifiant. Ensuite, il y aura d'autres pairs qui seront créés, mais parmi les 12 pairs traditionnels, il y a le comte de Flandre. Alors, les rapports entre le roi de France et le comte de Flandre, à travers les siècles, ont toujours été des rapports un petit peu compliqués. De temps en temps, c'était disons, l'amour, l'entente cordiale, de temps en temps, il y avait quand même des différends assez sérieux. Ça n'avait rien d'obligatoire. Mais le roi de France considérait que le comte de Flandre avait comme mission, comme devoir, d'être à son service et de s'aligner sur sa politique. Et c'est parce que le comte de Flandre, selon le point de vue de Philippe le Bel, n'a pas rempli ses obligations, que finalement, Philippe le Bel estime, lui seul probablement, et pas simplement son entourage de légistes, lui et ses princes, les princes des fleurs de lys, comme on dit, estime nécessaire de lancer une opération contre le comté de Flandre, une opération brutale, parce que, comme le dit Xavier Hélary, Philippe le Bel n'est pas simplement un ambitieux qui souhaite être vraiment maître chez lui, mais un brutal, pour, mettre au pas le comté de Flandre, le comte de Flandre, jusqu'à ce que celui-ci se soumette, en quelque sorte, d'où une sorte d'opération, d'occupation du comté de Flandre par la force armée. Je ne pense pas, bon là je me souviens des analyses que Robert Faftier, dans le temps, qui connaissait fort bien le règne de Philippe le Bel, même s'il idéalisait quelque peu, avait sur cet événement, je ne pense pas que Philippe le Bel ait songé à l'annexer définitivement au domaine. C'était une mesure, pour ainsi dire, transitoire, mais une mesure transitoire qui pouvait durer. Et donc je crois que le problème de Philippe le Bel, qui manifestement, enfin tout l'indique, ses conflits avec le pape Boniface VIII, avec le roi d'Angleterre, avec les Templiers, etc., avait une très haute idée de son importance, auréolé par le souvenir de son grand-père Saint-Louis, je pense que Philippe le Bel avait, disons, le désir de mettre au pas deux terres, à savoir le duché d'Aquitaine et le comté de Flandre, mais non pas sous la forme d'une annexion pure et simple au domaine royal. On peut en discuter, il n'y a pas de preuve absolue, ni dans un sens, ni dans l'autre.
Enfin, nous voilà maintenant, je pense, prêts à nous engager dans l'évolution chronologique, au départ, deux données essentielles. D'un côté, la personnalité et la politique de Philippe le Bel, que Philippe Contamine vient de très bien résumer. Et de l'autre, n'oublions pas que nous sommes dans une période de difficultés économiques et politiques. C'est, comme l'écrit Xavier Hélary, le retournement de la conjoncture que l'on remarque dans les années 1270-1290, c'est-à-dire après la mort de Saint-Louis, ce qui fera d'ailleurs qu'au XIVe siècle, on parlera volontiers en France du « bon temps, Monseigneur Saint-Louis ». Ce temps est passé. Et c'est donc un temps de trouble, en particulier en Flandre. Est-ce que vous voudriez bien, Xavier Hélary, nous dire l'essentiel de ces troubles ?
Alors ces troubles urbains, effectivement, constituent la toile de fond sur laquelle va se jouer ensuite le conflit entre Guy de Dampierre et Philippe le Bel. Alors ces troubles urbains, ils se caractérisent par une crise, enfin ils s'expliquent plutôt par une crise économique qui vient frapper la production de toile dans les villes flamandes et qui vient donc susciter un ralentissement de l'activité. Or, dans ces villes très peuplées que sont Gand et Bruges, une grande partie de la population est formée par les artisans. Or, si les artisans ont plus de mal à gagner leur vie, ils peuvent causer en tout cas des troubles. Par ailleurs, ces villes sont toujours perçues par le comte, qui n'a pas beaucoup de notions d'économie sans doute, ces villes sont toujours perçues comme des vaches à lait potentielles, c'est-à-dire que le comte appuie une grande partie de sa politique sur l'argent que peuvent lui fournir ces villes industrieuses et commerçantes. Et par conséquent, la confrontation entre cette, d'une part, cette crise économique et les demandes toujours plus fortes du conte finit par provoquer un certain nombre de troubles, alors récurrents à partir des années 1280, avec des émeutes dans lesquelles le conte intervient plus ou moins.
Alors, le résultat, c'est que en 1200, l'ensemble du comté est occupé, que les révoltes commencent, et avant de nous parler de l'événement militaire essentiel qui va arriver, vous nous donnez, ce qui est d'excellente méthode historique, une description et une présentation des forces et faiblesses des deux armées qui vont être en présence, l'armée royale et l'armée flamande. Et on va peut-être demander à Philippe Contamine, grand spécialiste de ces problèmes militaires, de nous présenter rapidement, à partir de votre livre, la physionomie de ces deux armées.
Je suis du reste les développements de Xavier Hélary dans sa thèse, parce qu'il a profondément renouvelé le sujet dans cette perspective. Disons qu'il y a, de façon presque un petit peu caricaturale, une armée de chevaliers, d'hommes d'armes, chevaliers et écuyers, petite, moyenne, grande noblesse, assez importante, recrutée localement avec des liens de parenté très forts entre tous ces nobles, et puis de l'autre, une armée, comme on dit, de communes, de milices. Bon, de milices, c'est le terme qu'on emploie. Alors, nous avons la chance de posséder, précisément pour cette année 1302, la façon dont Philippe le Bel a procédé pour convoquer cette armée. Et on voit très bien comment est-ce que, dans son esprit, il y avait deux temps. D'abord, une convocation à minima, par des gens qui étaient voisins du théâtre d'opération. C'était autour du comte d'Artois, qui était considéré comme le plus valeureux des chefs de guerre à la disposition de Philippe le Bel. Et puis ensuite, eh bien, il y aurait eu une convocation beaucoup plus importante, avec des forces considérables, mais dans un deuxième temps. Donc on est en présence, disons, de l'avant-garde de l'armée française, une avant-garde qui a été battue, ça incontestablement, de façon honorable ou déshonorable, on peut en discuter, mais une avant-garde de gens qui, d'abord, étaient conscients de sa valeur, et d'autre part, qui avaient quand même une expérience militaire assez considérable. Ce n'étaient pas des novices, c'était des gens pour lesquels la guerre était véritablement l'horizon. Ils n'ont pas toujours été vainqueurs. Après tout, la Mansoura, n'est-ce pas, montre qu'ils n'étaient pas invincibles. Mais notamment, disons, cette chevalerie française en Italie, sous Charles d'Anjou, a remporté d'assez beaux succès. Donc il y avait là une tradition militaire tout à fait considérable et reconnue comme telle à travers l'Europe, à travers la chrétienté. Et puis en face de cela, eh bien, il y a ces communes flamandes, essentiellement des gens de pied, mais qui, eux aussi, sont organisés militairement, car les villes sont aussi, à la fin du Moyen-Âge, et même depuis le XIIe siècle, finalement, des éléments considérables sur le plan militaire. Et notamment, ces villes flamandes si fières d'elles-mêmes. Et donc, il y a du côté, c'est surtout les Brugeois. Les Brugeois ont été le fer de lance de la bataille, de la victoire de Courtrai. Il y avait d'abord, disons, des arbalétriers au nombre de 320. On a le chiffre exact, plus un nombre considérable de pavesiers pour permettre à ces arbalétriers de recharger leurs armes entre deux tirs, et c'était bien organisé, très bien organisé. Et puis les gens de métier qui étaient également organisés de façon tout à fait conséquente, avec leur fameux goudendag, avec une discipline, avec un esprit de corps, peut-être même avec des expériences, des exercices militaires en commun qui leur permettaient de ne pas s'improviser sur le champ de bataille, mais de montrer leur cohésion. Et cela dit, plus de la cavalerie qui a joué son rôle et que les chroniques mettent en vedette, une force d'appoint, mais nous sommes en présence de toute façon, disons, de petits effectifs.
Bon, alors voilà. Si nous résumons en simplifiant, on peut dire que l'on a d'un côté une armée dominée du point de vue social et militaire et idéologique par des chevaliers. Et c'est aussi l'occasion de montrer l'intérêt montré par le Moyen Âge et en particulier les chevaliers à cet animal qu'est le cheval, qui vous a, je crois, beaucoup intéressé, Xavier Larry. Et on cite par exemple le nom du cheval de Robert d'Artois, Morel. Et d'autre part, cette armée de chevaliers a dans son armement un élément qui va donner son nom à la bataille, ce sont ces fameux éperons d'or. Et du côté flamand, comme Philippe Contamine vient très bien de le dire, il y a aussi des armes particulières, y compris ce Gundag, qui est quoi?
Alors donc, éperons d'or, peut-être faudrait-il mieux dire éperons dorés. Parce que si ça avait été des éperons d'or, les chevaliers français étaient fous. Mais peut-être pas à ce point, n'est-ce pas? Bon, éperons dorés. C'est pour ça que ces éperons dorés, c'est déjà pas mal, ont été offerts après la bataille et suspendus dans une chapelle de l'église de Courtrai. Alors le Gundag, c'est un gros bâton. Ça veut dire bonjour, hein, ça veut dire bonjour à flamand. Un très gros bâton manié à deux mains qui se termine par une pièce de métal et puis ensuite une pique. Et alors c'est ce Gundag habilement manié peut permettre non pas de frapper directement le cavalier, mais le destrier.
Alors maintenant, parlons de la bataille elle-même. Cette bataille, si là encore je résume avant que vous donniez à nos auditeurs quelques précisions importantes et intéressantes, il faut noter au départ, je dirais, le fait que vous considérez comme l'avantage pris par les Flamands le choix du terrain. Vous allez nous dire en quoi ça consiste. Et d'autre part, ce sont les chevaliers français, qui vont déclencher ce qui est leur façon habituelle de se battre étant à cheval, ce sont des charges. Alors comment, à partir de ce terrain d'une part et de ces charges de l'autre, se déroule la bataille?
Alors, la bataille se passe donc le 11 juillet 1302. Le comte d'Artois est arrivé avec son armée devant Courtrai trois jours auparavant. Alors, la situation est la suivante. La ville de Courtrai est tenue par les rebelles flamands, ceux qui sont du point de vue français, du point de vue royal, des rebelles. Et les rebelles flamands assiègent une petite garnison française qui s'est réfugiée dans le château de Courtrai. Et c'est pour libérer cette garnison française, royale, que le comte d'Artois s'est dirigé d'abord, il est au tout début de son expédition, c'est pour ça qu'il s'est dirigé vers Courtrai, où il arrive donc le 8 juillet. Il essaye d'attaquer Courtrai, de prendre la ville, mais c'est une série d'échecs. Et le 11 juillet, au matin, les deux armées se mettent en position, en ordre de bataille, ce qui veut dire que probablement il y a eu un accord entre les deux parties et qu'on avait décidé que voilà, ce jour-là, les deux armées sortiraient et se mettraient en position, en ordre de bataille, donc l'une face à l'autre. Donc pas de surprise, et c'est une bataille qui est préparée à l'avance. Les Flamands se sont installés donc dans la plaine qui est à côté de Courtrai. Alors, aujourd'hui, c'est difficile évidemment de se rendre compte puisque tout est urbanisé, mais enfin, il faut imaginer une plaine, probablement entrecoupée de fossés ou de petits cours d'eau, une plaine assez peu facile pour une charge de cavalerie, mais il faut préciser malgré tout que cette charge de cavalerie a été considérée comme possible par les chefs français qui ont fait reconnaître le terrain. Donc on a l'impression quand même que les Français ont pensé, à tort visiblement, mais ils ont pensé malgré tout que le terrain était possible pour une charge de cavalerie de se déployer. Il revient, vu la nature des deux armées, il revient à l'armée royale, à l'armée de chevaliers qu'est l'armée du comte d'Artois, de prendre l'initiative en fait, puisque sinon il n'y aura pas de bataille, puisque en face, dans l'armée flamande, même les cavaliers ont mis pied à terre et se sont disposés, les sources flamandes parlent souvent d'un mur, hein, le mur formé par les combattants flamands. Et les chevaliers français s'apprêtent donc à charger.
Et qu'est-ce qui se passe?
Il s'apprête à charger et donc il décide de charger. Alors, Par la suite, les chroniqueurs ont souvent mis en cause l'arrogance du comte d'Artois, qui aurait interrompu les premières escarmouches lancées par l'infanterie française, en fait, hein, les gens de pied, les fantassins français, se seraient dirigés contre les Flamands, auraient commencé à engager le combat, mais voyant que les fantassins français étaient sur le point de l'emporter, le comte d'Artois les aurait fait retirer, et avant que l'infanterie française soit entièrement retirée, aurait lancé la charge des premiers escadrons de chevaliers, étant donné qu'il y a plusieurs escadrons de chevaliers, ce qu'on appelle des batailles, et que ces différents escadrons ne vont pas tous charger en même temps, mais qu'ils vont charger en trois vagues successives. Cette charge de la cavalerie française, elle commence donc par bousculer les fantassins français. Les chroniqueurs flamands insisteront bien souvent sur cet aspect, mais les chroniqueurs français également. Et les chevaliers français vont donc se trouver face à l'ennemi. Alors, probablement, l'ennemi, le flamand, est disposé derrière un fossé ou derrière une rivière, probablement qui n'a pas été creusé pour l'occasion, mais que les Flamands ont peut-être recouvert ou dissimulé, ou qu'ils ont creusé davantage. Et en tout cas, ce canal, ce fossé, cette rivière, on ne sait pas exactement, les chevaliers français vont pouvoir le traverser malgré tout. Hein, et donc, ils vont pouvoir sauter par-dessus ce fossé et engager le combat directement face aux Flamands. Mais c'est là que la supériorité supposée de la chevalerie va se trouver contredite par l'efficacité du dispositif flamand, ce mur flamand qui est face à eux. En effet, armés de leur golden dag, hein, de cette arme que Philippe Contamine a décrite tout à l'heure, les miliciens flamands, les communiers flamands, et surtout donc les brugeois, vont pouvoir renverser les chevaux des chevaliers français. Et surtout, ce qui va se passer, c'est que même quand les chevaliers français peuvent pénétrer dans les rangs ennemis, ils n'ont plus de place pour manœuvrer. Et c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont passé le fossé, le dispositif flamand dans son ensemble tient, et par conséquent, les chevaliers français n'ont plus de place pour manœuvrer. Or, s'ils ne peuvent plus manœuvrer, ils ne peuvent plus appliquer leur tactique habituelle, qui est de charger une première fois, une seconde fois, une troisième fois. Et donc, les chevaliers français vont se trouver confrontés d'une part à un ennemi qui est aussi bien armé qu'eux, qui est plutôt en position de force, et surtout qui les a empêchés de manœuvrer, puisque si les chevaliers français avaient suffisamment d'élan pour passer le fossé dans un premier temps, ils n'ont plus de place pour manœuvrer, et ils n'ont plus d'élan non plus pour retraverser le fossé de manière à échapper aux miliciens, aux communiers flamands.
Alors, quel est l'événement fatal qui va en fait mettre fin à la bataille?
Alors, la bataille, visiblement, autant qu'on peut le savoir, la bataille a duré très peu de temps. C'est-à-dire que ça a duré peut-être une heure ou deux heures, que les chevaliers français, qui n'étaient pas si nombreux, ils étaient quelques centaines, quelques milliers au plus, finalement vont subir de très lourdes pertes dans les premières charges, face à, encore une fois, un ennemi qui est bien équipé, bien armé, ne vont pas pouvoir manœuvrer et sont donc repoussés progressivement vers les fossés où, évidemment, ils finissent par tomber. Et c'est l'image traditionnelle que retiennent les chroniques, tant françaises que flamandes, c'est-à-dire ces chevaliers lourdement armés, empêtrés dans leur équipement et qui tombent avec leurs chevaux, les uns sur les autres, hein, les chevaliers les uns sur les autres, dans les fossés, pratiquement sans pouvoir combattre à partir de ce moment-là.
Et quel est le vaincu le plus visible?
Alors le vaincu, c'est le grand vaincu de l'affaire, c'est le comte d'Artois. Le comte d'Artois, qui est un neveu de Saint-Louis, donc un prince capétien, personnage qui a une cinquantaine d'années à l'époque, qui est le grand chef de guerre de la famille, puisqu'il a servi non seulement continuellement depuis la croisade de Tunis en 1270, hein, où il se couvre déjà de gloire alors qu'il n'a qu'une vingtaine d'années, mais c'est le principal chef de guerre de Philippe III, puis de Philippe le Bel dans la décennie 1290, mais c'est aussi le principal chef de guerre de la branche angevine, napolitaine de la dynastie capétienne, c'est-à-dire Charles Ier, puis Charles II d'Anjou. Donc Charles Ier d'Anjou, le frère de Saint-Louis, et Charles II, le fils de Charles Ier, donc un autre neveu de Saint-Louis. Donc Robert d'Artois a une grande expérience de la guerre, grande expérience des tournois aussi, puisque ses archives et les chroniques nous montrent que quand il n'était pas en campagne, il courait les tournois. Oui, il était un prince tournoyeur, comme il y en a beaucoup, mais il était vraiment le prince des tournoyeurs. Donc on peut penser qu'il a une expérience de la guerre très longue, mais il n'a pas beaucoup d'expérience peut-être de la bataille. Et c'est peut-être ce qui lui a joué des tours à la bataille de Courtrai.
Et alors que lui a réussi ?
Alors, il est dans l'arrière-garde, ou plutôt dans le corps de réserve, et voyant que la bataille se déroule d'une façon difficile pour ses troupes, il décide de lancer une dernière charge. On peut penser que son corps de réserve, il y a encore l'arrière-garde derrière, mais son corps de réserve est formé sans doute des meilleurs chevaliers. Et donc, il peut espérer renverser le cours de la bataille. Il traverse donc à son tour le fossé, et c'est là que les récits divergent. C'est-à-dire que chez les chroniqueurs français, il se bat avec beaucoup de courage, beaucoup de vaillance. Un des chroniqueurs rappelle d'ailleurs qu'il a été blessé de 30 plaies, qu'il portait 30 plaies avant de succomber finalement. Mais les chroniqueurs flamands ou anglais, les Anglais n'aimaient déjà pas beaucoup les Français à l'époque, les chroniqueurs flamands comme anglais ont souvent présenté le comte d'Artois dans une situation plus délicate, et le comte d'Artois aurait cherché à se rendre. Il aurait cherché à se rendre aux Flamands, à rendre son épée pour être pris à rançon. C'est d'ailleurs pas impossible, puisque dans la logique nobiliaire, chevaleresque, on ne se tue pas entre chevaliers, ou le moins possible, et par conséquent, on peut penser que c'est pas impossible psychologiquement que le comte d'Artois ait cherché à se rendre. Mais disons que les chroniqueurs flamands insistent sur cette demande à rançon et sur le refus qui est fait par les Flamands pour mettre en doute son courage et pour mettre en valeur, de l'autre côté, la détermination des Flamands.
Et alors, quel est le geste symbolique qu'auraient commis les Flamands après la mort du comte ?
Alors, chez le chroniqueur Van Veltum, qui écrit dans les années 1310, mais qui probablement utilise ou même recopie simplement un texte qui est immédiatement produit après la bataille, un des combattants, c'est un boucher de Bruges, aurait tranché la langue du comte d'Artois. Il faut probablement voir dans cette mutilation le fait que le comte d'Artois parlait en français. Van Veltum insiste beaucoup sur le fait que cette bataille, c'est aussi une bataille entre francophones et, néerlandophones, ou ceux qui parlent le flamand, et que arracher la langue du comte d'Artois, c'est arracher la langue de celui qui parlait en français, et peut-être aussi de celui qui donnait ses ordres en français, puisque le comte d'Artois était, autant qu'on peut le voir, une personnalité très autoritaire.
Avant de dire rapidement la mémoire que la bataille de Courtrai a laissée dans l'histoire, nous allons écouter un texte qui est de ce chroniqueur que vous venez de citer, Ludwig van Veltum. C'est le début du combat. Et ensuite, nous lirons à la fin de l'émission un texte qui raconte la mort du comte d'Artois. Écoutons donc le début de la bataille.
À ce moment, les Flamands se trouvaient dans une plaine proche, serrés les uns contre les autres, et tous à pied, armés de piques, bien protégés et prêts à engager le combat. Alors, le comte d'Artois envoya un héraut pour qu'il inspecte le camp adverse et pour qu'il lui dise si, dans l'armée flamande, il n'y avait pas un seigneur de grande valeur qui allait participer au combat. Il avait l'intention de s'emparer de celui-ci et de le faire prisonnier au cas où la bataille lui serait défavorable. Le héraut s'éloigna immédiatement, étudia l'armée flamande par devant et par derrière et revint et raconta au comte d'Artois ce qu'il avait vu. « Sire comte, je n'ai rien vu d'autre que des braillards et des tisserands armés. Et lorsque j'ai fait le tour de l'armée, je n'ai vu personne d'importance à l'exception de Guillaume de Julier et Monseigneur Guy, un jeune chevalier, fils de Guy de Dampierre. Ils sont à pied et postés le long d'une rivière. De derrière, on ne peut pas les attaquer. J'y ai vu briller une bannière, le lion rampant sur fond d'or. » Le seigneur Godefroy de Brabant dit alors « Je suis d'avis que c'est du chevalier qui porte la bannière au lion dont il faut le plus méfier. C'est Monseigneur Jean de Renesse. Dans le monde entier, il n'y en a pas six qui soient plus compétents en matière militaire. » Il conseilla alors au comte d'Artois de ne pas commencer le combat et de le renvoyer au lendemain, au lever du soleil. « Chargeons-les demain, ce n'est que de la pauvre piétaille, et elle sera fatiguée à ce moment. » Ce conseil gêna le comte d'Artois. Il se redressa sur son cheval et dit « Maintenant que tu recules, je me doute bien, Godefroy, que tu as l'intention de fuir et que tu te tiens sur tes gardes. » Ensuite, le comte d'Artois prononça les paroles téméraires suivantes « Ce que tu fais mérite. Nous sommes à cheval et eux sont à pied. 100 chevaux valent bien 1000 hommes. Que crains-tu donc? Retourne-toi et vois. Ces gens vaillants ne t'abandonneront pas. »
Avant de discuter de la fin et des échos de la bataille de Courtrai, je voudrais, Philippe Contamine, vous demander ce que vous pensez de la façon dont Xavier Hélary a traité ce problème de divergence des sources.
Oui, c'est un point très important, parce qu'on s'aperçoit que la bataille de Courtrai a laissé une longue mémoire écrite. Dès le début du XIVe siècle et à travers le XIVe siècle, non seulement en Flandre, ce qui est naturel, non seulement en France, mais également en Angleterre, mais également en Italie. Le chroniqueur Villani en a parlé de façon tout à fait pertinente. Et donc on s'aperçoit que tous ces récits ne sont pas entièrement identiques, ce serait trop beau, mais ont quand même beaucoup d'éléments en commun. Des points qui évoquent le déroulement de la bataille depuis le début jusqu'à la fin, on les retrouve dans ces différentes sources. Certaines de ces sources, d'ailleurs, sont des poèmes, parce qu'une bataille suscite traditionnellement des poèmes, c'est bien connu. Alors, Xavier Hélary a une idée qui me paraît être très ingénieuse, même s'il y a une part évidemment d'imagination, c'est qu'il y a peut-être eu une source originale, un récit original, une Urschrift, comme on dirait en allemand, qui a été ensuite diffusée un peu partout en Europe. Si vous voulez, moi je me suis un petit peu intéressé à ce problème, disons, de l'événement au récit. Comment est-ce qu'on passe d'un événement brut tel qu'une bataille à un récit ordonné, clarifié, etc. Bon, et alors il y a, surtout au XIVe, au XVe siècle encore plus, ce qu'on appelle des lettres de bataille. Des lettres de bataille qui sont adressées en général par le vainqueur à différentes autorités de façon à ce qu'il y ait à l'opinion publique. Et donc je pense qu'on peut imaginer la présence d'une sorte de lettre de bataille composée par les Flamands en latin, peut-être, je ne sais pas, en latin ou en flamand, je ne sais pas, aussitôt après Courtrai, et cette lettre aurait été largement diffusée, avec des divergences, bien sûr, des reprises un petit peu différentes. C'est une hypothèse très intéressante qui ne demande qu'à être appuyée.
Oui, j'ai été beaucoup intéressé par une expression de Xavier Hélary à propos de cette diffusion des récits. Il parle du Moyen-Âge comme un âge de rumeurs. Et je crois en effet que c'est on peut dire, la forme essentielle de la communication au Moyen-Âge, et c'est encore, je crois, une vertu de cet ouvrage que de faire apparaître cette particularité de la vie médiévale. Oui,
David. Si je peux juste ajouter quelque chose, c'est que un chroniqueur comme Guillaume Guillard, par exemple, qui dit écrire donc dans les années 1304-1305, hein, qui raconte les guerres de Flandre, il dit les raconter justement parce que il a vu circuler, il a vu un texte, donc une version flamande de la bataille de Courtrai, et que par conséquent, finalement, l'idée que ce texte a été écrit d'une part, a circulé, est attestée déjà par certains témoignages. Et de l'autre côté, Ludwig van Veltem dit que il a cherché à écrire son récit de la bataille de Courtrai, justement pour contredire certaines versions françaises qui attribuaient une trahison des Flamands, qui auraient creusé des fossés la raison de leur victoire.
Nous avons consacré une émission à un autre événement moins spectaculaire mais très intéressant pour l'historien, du règne de Philippe le Bel, qui a été le procès de Guichard, l'évêque de Troyes, accusé d'avoir empoisonné et fait mourir la reine. Et au cours de son procès, on voit l'importance qui est donnée, presque avec un poids juridique, à ce qu'on appelle la fama, la réputation, mais en fait, je crois que la rumeur est encore la meilleure façon d'en parler. Alors voilà, c'est la déroute, et Philippe le Bel veut évidemment essayer de l'effacer, et il a alors un acte qui est très intéressant, si je peux dire aussi, pour le vocabulaire militaire, parce qu'il convoque à Arras le banc et l'arrière-banc de l'armée royale. Et vous soulignez, que Xavier Hélary, que c'est la première fois qu'apparaît cette expression qui aura beaucoup de succès, le banc et l'arrière-banc. Alors, ce qui se passe, c'est que Philippe le Bel réussit difficilement à battre, en étant personnellement à la tête de l'armée, les Flamands à Mont-Saint-Pevel en 1304, et que finalement le conflit est provisoirement arrêté par le traité d'Athis de 1305, qui est plus une trêve qu'un traité, non ?
Alors non, c'est vraiment un traité qui était conçu comme définitif, mais qui présentait des exigences tellement lourdes sur les Flamands, notamment sur les Brugeois, que nécessairement il ne pouvait pas être tenu.
Par conséquent, comme vous l'indiquez, sans qu'il y ait eu d'affrontement spectaculaire, la question flamande est loin d'être réglée à la mort de Philippe le Bel en novembre 1314. Alors, comme vous l'avez fait dans votre livre, je souhaiterais que les dernières minutes de cette discussion soient consacrées à ce que vous appelez la mémoire de la bataille de Courtrai, qui est une chose très intéressante et que vous expliquez aussi très bien.
Alors effectivement, la bataille de Courtrai, la bataille des éperons d'or, elle a une tradition, c'est-à-dire qu'au XIVe siècle, on en parle jusqu'à la fin du Moyen-Âge, et ensuite elle disparaît un petit peu, mais dans la première moitié du XIXe siècle, surtout à partir du moment où se constitue le royaume de Belgique indépendant en 1830, la bataille de Courtrai va faire figure d'événements identitaires, en quelque sorte, et d'événements fondateurs, avec d'emblée un certain nombre d'ambiguïtés, mais disons que dans les années 1830, on peut encore considérer que la bataille de Courtrai est une bataille, une victoire belge, en fait, sur l'adversaire français, hein, puisque au XIXe siècle, l'adversaire principal de la Belgique, ce que les Belges considèrent comme leur adversaire principal, c'est plutôt la France révolutionnaire, impériale, expansionniste, plutôt que l'Allemagne. Alors, les choses changeront au XXe siècle, mais enfin, au XIXe siècle, on insiste beaucoup sur cette victoire de la proto-belgique, en quelque sorte, sur le voisin français. Et puis, il y a donc une célébration organisée
oui,
le
11 juillet. Oui, mais il y avait eu, excusez-moi, il y avait eu, avant, je crois, ces commémorations, une polémique entre deux historiens, dont l'un au moins était célèbre.
Oui, alors cette polémique, elle éclate dans les années 1890. C'est une polémique entre deux grands historiens, Henri Pirenne, le grand historien belge, qui est plus connu que son concurrent oui. français, en l'occurrence, qui est Franz Fink-Brentano, qui a pourtant une œuvre importante, moins importante que celle de Pirenne. Et cette polémique, elle porte sur l'interprétation des textes, l'interprétation des sources, dont nous avons dit un mot tout à l'heure, c'est-à-dire que Henri Pirenne, finalement, veut établir qu'il n'y a pas eu de trahison de la part des Flamands, c'est-à-dire que les Flamands n'ont pas creusé de fossé, alors que Franz Fink-Brentano, finalement, essaye d'établir que les Flamands ont creusé des fossés et que toutes les sources sont d'accord pour dire que les Flamands ont creusé des fossés. Alors, cette polémique est de nature historique et historiographique, puisque les deux historiens insistent beaucoup sur leur traitement des sources et apportent beaucoup dans la connaissance des sources, mais elle a aussi une tonalité nationale, c'est-à-dire qu'il s'agit de montrer, surtout peut-être pour Pirenne, que les Belges, hein, puisque c'est de ça dont il s'agit, les Belges n'ont pas gagné de façon déloyale, mais qu'ils ont gagné à la loyale, hein, en combattant loyalement, et non pas en creusant des fossés, en faisant des pièges.
Donc, alors, il y aura donc ces deux commémorations.
Et alors, à partir de ce moment-là, effectivement, alors, sans que ça soit lié à cette polémique, non, mais oui. Les problèmes liés à la coexistence en Belgique des deux langues, et déjà des deux communautés, fait que ces problèmes font que, en définitive, il y a deux commémorations qui vont se mettre en place. Une commémoration officielle, qui est toujours en français d'ailleurs, puisque le français est à l'époque la langue principale en Belgique, et puis une autre commémoration qui va être la commémoration du mouvement nationaliste flamand, encore en vigueur aujourd'hui, et qui est beaucoup utilisé pendant les deux occupations de la Belgique par les Allemands, donc en 14-18, et puis de nouveau pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, finalement, l'événement Courtrai, la victoire sur l'ennemi français, finalement, est interprété comme fondateur, non pas de la Belgique, mais de la Flandre en tant qu'entité indépendante.
Oui, et alors le résultat, qui est, je dirais pas que surprenant, c'est que aujourd'hui, la mémoire de cette défaite de Courtrai, bon, on comprend que on n'aime pas à donner trop d'importance dans la mémoire nationale à une défaite aussi cinglante, mais n'existe pas dans la mémoire nationale française, alors que en Belgique. Elle est un exemple spectaculaire de la naissance de l'esprit national, surtout, comme vous l'avez dit, chez les Flamands. Et la question que vous posiez au début de la prudence avec laquelle il fallait donner une connotation nationale à la bataille de Courtrai, si elle est discutable pour le XIVe siècle, elle s'est affirmée avec la naissance de la Belgique et avec le, disons, patriotisme flamand actuel. Philippe Contamine.
Je crois qu'effectivement, Courtrai est pour la Flandre flamingante le Bouvines, son Bouvines. Donc, on a évoqué Georges Duby au début de cette émission. On peut l'évoquer de nouveau à la fin parce qu'il y a un parallélisme assez frappant. Et il est probable que déjà avant 1302, il y avait déjà une forte identité flamande, c'est vrai. Mais il lui manquait quelque chose et c'est Courtrai qui lui a donné ce supplément d'âme, si l'on veut, dont on peut suivre l'histoire depuis.
Voilà, eh bien, nous allons terminer cette discussion, cette émission, en écoutant le texte que je vous avais annoncé et qu'a choisi l'auteur de ce beau livre, Xavier Hélary, c'est le récit de la mort du comte d'Artois, mais cette fois-ci, dans une interprétation française, puisqu'il s'agit des grandes chroniques de France.
Voyant la ruine et la chute des chevaliers, le noble comte d'Artois, qui jamais n'avait eu à fuir avec la compagnie des nobles forts et vigoureux, tout comme un lion rugissant ou enragé, plongea parmi les flamands. Mais à cause de la multitude des lances que les flamands tenaient serrées, le noble comte ne put avancer. Et alors, ceux de Bruges, comme s'ils s'étaient transformés en tigres, n'épargnèrent nulle âme et ne laissèrent en vie ni grand ni humble. Mais avec leurs lances aiguës bien effilées, qu'on appelle boute-hache et godendaxe, ils faisaient trébucher les chevaux des chevaliers. Et quand ils tombaient à terre, ils les massacraient comme des brebis. Ainsi donc, le bon comte Robert d'Artois, vaillant, et encerclé de toutes parts, bien que blessé de nombreuses plaies, combattit toutefois vaillamment et vigoureusement, préférant mourir avec les nobles hommes qu'il voyait mourir devant lui, plutôt que de se rendre au vilain et aller en prison.
C'était les lundis de l'histoire par Jacques Le Goff, avec l'auteur d'un beau livre sur Courtrai, 11 juillet 1302, la bataille des Éperons d'Arc, paru aux éditions Talendier, l'auteur étant Xavier Hélary, maître de conférence à l'Université de Paris-Sorbonne, Paris 4. Et notre invité, Philippe Consamine, professeur émérite de cette même université de Paris-Sorbonne, Paris 4. Les textes ont été lus, comme d'habitude, par Jean-Pierre Leroux. La prise de son est de Philippe Etienne. La réalisation de Ghislaine David. La semaine prochaine, les lundis de l'histoire seront présentés par Michel Perrault. Et dans quelques instants, c'est pas la peine de crier, par Marie Richaud.